Lionel, bonjour.
Bonjour.
Voici une nouvelle émission d'En route vers les étoiles. On va continuer à explorer le système solaire bien au-delà, parce que au travers de toutes les émissions que vous nous proposez, on découvre plein de choses. Aujourd'hui, et c'est pour ça que je dis qu'on découvre plein de choses, c'est grâce à des gens comme vous, à des clubs comme Albireo 78, bref, à des astronomes amateurs. Et vous allez nous parler aujourd'hui des découvertes des astronomes amateurs qui permettent, on va le dire, qui facilitent le travail ou qui déblaient le travail pour les professionnels.
Eh bien, parfois, oui, c'est un peu le but. Alors pas un but, c'est pas pour ça qu'on fait des observations, mais c'est grâce à nos observations qu'on arrive à faire des choses comme ça. Et l'idée, c'est que c'est pas tellement, la voûte céleste n'est pas aussi immuable qu'on le disait il y a quelques siècles. La sphère des fixes, en fait, il se passe plein de choses dans cette sphère des fixes, et il y a des choses qui évoluent, des choses qui apparaissent, des choses qui disparaissent, et finalement il y a encore tout un tas de découvertes à faire. Et vu la quantité de choses qu'il y a quand même, ne serait-ce que dans notre galaxie et même dans l'univers dans son ensemble, il y a plein de choses à découvrir. Et des processus, des procédures qui ne sont propres qu'aux astronomes amateurs. On va voir pourquoi les professionnels ne peuvent pas se permettre de faire ce que les amateurs font. Mais par la suite, ils peuvent utiliser les données et en tout cas les alertes qu'on peut leur donner.
Eh bien, très bien, on va voir ça dans quelques instants. Lionel, aujourd'hui donc on aborde les découvertes des astronomes amateurs dont vous faites partie.
Absolument, absolument. Avec le club Albireo 78.
Donc d'ailleurs, ça sera l'occasion de vous nous parler de choses, de phénomènes que vous avez pu observer et passer aux professionnels, ça sera intéressant. Alors, vous nous avez parlé dans l'introduction de la sphère des fixes, qui n'est pas si fixe que cela. Alors déjà, pourquoi cette expression de la sphère des fixes ?
La sphère des fixes, c'est parce que on imaginait à l'époque, il y a quelques siècles, que même jusqu'à Galilée, il fallait quand même que tout ce qui se passe dans le ciel soit assez immuable et stable dans le temps, que toutes les étoiles étaient identiques les unes aux autres et plantées finalement dans une sphère autour de la Terre.
D'accord.
La Terre était le centre de tout cet univers-là. Et autour, il y avait des étoiles plantées, comme si c'était planté dans un drap et on voyait les petits points. Et rien ne devait bouger. Bon, effectivement, depuis, les choses ont évolué, évidemment. Les étoiles se déplacent, la Terre se déplace, et les étoiles évoluent. Et il y a d'autres choses à voir que des étoiles dans le ciel.
Mais qu'est-ce qui évolue d'autre que les étoiles, justement ? Par exemple, sans rentrer trop dans le vif du sujet, parce qu'on va vous allez y venir.
Alors, dans le système solaire, il y a des choses qui bougent. Il y a des comètes qui apparaissent, par exemple. Et pour la plupart, on ne les prédit pas, puisque ce sont des premières apparitions. Donc, on va le voir. Mais une des différences entre ce que peuvent faire les amateurs et ce que ne peuvent pas faire les professionnels, c'est simplement observer le ciel au hasard.
Donc, c'est la surveillance au hasard.
Aucun but précis. Donc, c'est-à-dire que chaque nuit, les astronomes amateurs n'ont pas un objectif qu'on leur a assigné. Ils font ce qu'ils veulent, en gros.
Mais c'est la différence avec les professionnels.
Mais les professionnels, quand on doit louer du temps d'instrument, il faut avoir un projet hyper précis. Et il faut que ce projet soit accepté. Donc, on peut pas se permettre de dire, donnez-moi du temps d'observation et je vais regarder je sais pas quoi encore et je vais choisir. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. Alors, quand je dis au hasard, pas complètement quand même. Mais parce que peut-être que dans ce coin-là, il y a une galaxie qu'on a envie de revoir, il y a une nébuleuse qu'on a envie de photographier. Donc il y a quand même une cible précise, mais cette cible-là, c'est nous qui la décidons chaque soir, de toute façon. Donc c'est en ce sens que je dis, on n'a pas de but précis, on veut juste faire une belle image d'une galaxie, par exemple. Et comme il y a des millions d'astronomes sur Terre, chaque nuit, chacun choisit une galaxie différente, finalement, chaque nuit, on surveille tout le ciel.
Alors, le fait d'être astronome amateur, c'est quoi ? C'est l'aspect scientifique, mais pas que. C'est aussi l'aspect esthétique, la beauté
L'aspect esthétique, c'est parce qu'on n'a pas quand même les compétences d'un astronome professionnel. On n'a pas passé les diplômes d'astrophysique qu'il faut pour pouvoir étudier, on va dire, à partir de nos données brutes, de pouvoir en tirer des choses. Par contre, on peut remplir les bases de données des professionnels avec nos observations brutes. Et eux vont après faire les calculs et en tirer des choses. Alors, je vous ai dit, qu'est-ce qu'on peut voir évoluer, par exemple? Les étoiles. Les étoiles, ça naît, ça vit, ça meurt. Alors, c'est pas ça qu'on va voir évoluer, parce que la vie d'une étoile, comme le Soleil, c'est 10 milliards d'années.
Oui.
Donc là, ça prend un peu de temps.
C'est rien au niveau de l'univers, pour nous, c'est énorme.
Bon, pour nous, on peut assister à des phénomènes particuliers, à des moments précis de la vie des étoiles, et notamment la fin de vie des étoiles. Une étoile comme le Soleil en fin de vie, ça va éjecter les matières les plus externes de ses couches, et ça va envoyer de la matière dans l'espace. On va avoir ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire. Une Une étoile massive qui arrive en fin de vie, c'est une supernova. Donc on va dire ça éjecte bien plus violemment. Il y a pas d'idée d'explosion en fait, c'est une sorte de rebond, c'est comme si vous étiez sur un trampoline et les couches externes, elles tombent sur un noyau hyper dur et elles rebondissent dans l'espace. Donc c'est tout le monde pense que supernova c'est une explosion dans l'espace. Non, il y a rien qui explose, ça rebondit simplement. Et en rebondissant, ça va tasser encore plus le cœur de l'étoile. Donc la supernova, donc une étoile massive qui arrive en fin de vie, ça apparaît dans n'importe quelle galaxie, mais finalement au hasard. Donc qui sont les premiers en général à découvrir une nouvelle supernova dans une galaxie quelque part dans l'univers ? Ce sont les amateurs.
Du fait de ce hasard.
Mais du fait de ce hasard, chacun observe une galaxie, chacun fait une photo, et d'un seul coup, en analysant les photos, on se rend compte, il y a une nouvelle étoile qui vient d'apparaître dans la galaxie. Alors évidemment, après nous sommes des lanceurs d'alerte, les professionnels avec leur super télescope, ils vont étudier cette supernova-là, cette étoile particulière qui peut se trouver à des millions, des centaines de millions d'années-lumière, voire même plus. Donc on va faire des spectres pour étudier le type de supernova, pour voir comment elle va lentement décroître. Parce qu'en fait, ce que l'on voit, c'est simplement au moment où ces couches externes sont violemment éjectées dans l'espace et sont toujours éclairées par l'étoile centrale, ça va durer un temps. Ces couches externes-là, à la vitesse où elles s'éloignent, elles sont éjectées. Elles vont se diluer dans l'espace et l'étoile va de moins en moins être capable de les exciter et donc de les éclairer. Donc on les verra plus. Donc une supernova devient hyper visible pendant un moment et puis lentement ça diminue, la luminosité décroît. Donc on étudie cette décroissance-là qui peut durer quelques semaines, quelques mois maximum. Et après l'étoile, on peut plus la voir dans cette galaxie-là. Il reste qu'un petit cœur qui est franchement encore plus petit que l'étoile au départ et là on la voit plus.
Ça veut dire que certaines observations d'astronomes amateurs qui ont été étudiées ensuite par des professionnels il y a, je vais vous dire, par exemple 50 ans, ces phénomènes-là, on peut pas les confirmer en les observant aujourd'hui parce qu'ils n'existent plus, on les voit plus.
Ah ben, pour la plupart des supernovas, à part quelques cas particuliers, évidemment, une étoile ne meurt qu'une seule fois.
Donc, non, c'est pas ça que je voulais dire.
On ne les voit plus maintenant.
C'est-à-dire en termes de temps, le temps a de l'importance dans l'observation.
Oui. Faut observer au bon moment. Et ça, on peut pas le deviner. D'accord. À la base. Une supernova, on peut pas prédire son explosion. Et donc, pour ce type d'événement-là, en tout cas, les amateurs sont bien placés parce qu'ils observent tout le ciel, toutes les nuits. Autre chose pour la vie des étoiles, par exemple, c'est leur comportement. Alors là, plutôt dans une phase avant la fin de vie. Une étoile comme le Soleil actuellement, fusionne de l'hydrogène en hélium. Bon, là, c'est la majorité de sa vie. Et toutes les étoiles vont passer la très grande majorité de leur vie dans cette phase-là. C'est une phase très stable. Si on prend la vie d'une étoile, par exemple, sur une année, on va fusionner de l'hydrogène en hélium jusqu'au 25 décembre. Et ensuite, les 5 jours qui restent, c'est la fin de vie de l'étoile. Mmh. Et on va passer par d'autres phases. Mais des phases qui vont s'accélérer, qui vont s'enchaîner de plus en plus rapidement. Alors, cette année-là, pour le Soleil, ça dure 10 milliards d'années. Donc il est au milieu de cette phase de fusion de l'hydrogène en hélium. Cette phase-là, pour une étoile très massive, ça peut ne durer que quelques millions d'années.
Mais c'est rien du tout.
Donc les supernovas, on en parlait, les étoiles massives, leur durée de vie, ça se compte en millions d'années. Le Soleil, ça se compte en milliards d'années. Mais on va dire la proportion est toujours la même. La phase de fusion de l'hydrogène en hélium, c'est la très 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 grande majorité de la vie. Une fois que l'hydrogène, il n'y en a plus assez, l'étoile va passer dans une phase instable avant d'enclencher les réactions suivantes, c'est la fusion de l'hélium.
Oui, oui.
Entre ces deux phases-là, une étoile devient un peu instable. Et par exemple, des étoiles comme le Soleil, elles passent par une phase de variabilité où l'étoile devient, on va dire, pulsante. Son éclat va varier. On a une étoile variable. Eh bien, les astronomes amateurs, par exemple, peuvent se permettre d'étudier pendant des nuits et des nuits et des nuits cette variation de luminosité de ces étoiles particulières. Alors, les étoiles comme le Soleil, elles passent par un type qu'on appelle RR Lyrae. Donc, c'est une étoile de la constellation de la Lyre qui sert de prototype pour décrire ce type d'étoile-là. Et donc, on observe, par exemple, la variation d'éclat de ces étoiles RR Lyrae. On en a, par exemple, au Club Albireo 78 qui observe des dizaines d'étoiles de ce type-là. Et pourquoi le font-ils? Parce qu'on a découvert, en 1907, c'est Sergueï Blaskov, c'est un russe, qui a mis en évidence un phénomène particulier dans ces variations d'éclat-là. Et il y a une irrégularité dans finalement ce cycle qui est normalement régulier. Et cette irrégularité-là, on l'appelle l'effet Blaskov. On pense que c'est lié au champ magnétique de ces étoiles-là. Donc il y a quelque chose encore qu'on a découvert en 1907, qu'on s'explique pas encore complètement. Et donc on a besoin d'observer ces cycles-là qui sont finalement pas si réguliers que ça dans ces étoiles variables-là. Les astronomes amateurs ont du temps. à consacrer à l'étude de ces phénomènes-là. Bah donc, on remplit les bases de données des professionnels qui vont dépouiller ensuite les données des amateurs pour faire avancer la science et faire avancer la théorie.
Bon, cette surveillance au hasard, vous venez de nous en parler, il s'agit d'étoiles, notamment des étoiles variables, un phénomène, mais aussi les comètes que vous avez évoquées au début de cette émission.
Bah oui, parlons des comètes. Ça c'est du hasard aussi. Alors, il y a les comètes pour lesquelles c'est pas trop du hasard. Par exemple, la comète de Halley, elle revient, on va dire, proche de la Terre tous les 76 ans, puisque c'est sa période orbitale. C'est une comète qui ne va pas très loin dans le système solaire. 76 ans, c'est pas énorme. À l'orbite de Pluton fait un tour autour du Soleil en 250 ans. Donc voilà. On voit bien que la comète de Halley, c'est bien plus court que ça. Donc elle a une toute petite orbite par rapport à celle de Pluton, notamment.
La comète de Halley, sur une vie humaine, on peut la voir peut-être deux fois, quoi.
Alors, oui, avec un peu de chance. Il aurait fallu la voir au tout début de sa vie, et puis finalement, on la verra en fin de sa vie. Si on la voit au milieu, on la voit qu'une fois.
J'ai l'intention d'avoir trois fois.
Mais il y en a qui ont plus d'ambition que d'autres. Ça, c'est clair. Mais donc, la comète de Halley, par exemple, et c'est ce qu'avait fait Edmond Halley, mais avant qu'elle porte son nom, il avait prédit son retour. Et finalement, avec le jeu des attractions gravitationnelles, quand la comète de Halley passe pas très loin de Jupiter, on sent bien que son orbite peut être un petit peu déformée. Et donc, l'orbite d'une comète va évoluer. Et ce que l'on tente de prédire, c'est la date de son retour. Quand est-ce qu'on peut la revoir à nouveau pour redéterminer les nouveaux éléments orbitaux de la comète qui a peut-être été perturbée par quelques planètes dans notre système solaire. Et donc, les amateurs, là, ce qu'ils cherchent, en tout cas pour certains d'entre eux, c'est quand est-ce qu'on va la revoir à nouveau, être le premier à la voir revenir. Parce qu'une comète, quand elle s'éloigne sur son orbite, elle est très loin dans le système solaire, c'est un noyau inerte. Elle est petite, une comète.
Mais elle se sublime au moment où elle se rapproche
suffisamment du Soleil. Et là, elle devient d'un seul coup bien plus grosse et elle devient visible. Et c'est à peu près au niveau de l'orbite de Jupiter que tout se joue. C'est la limite des glaces finalement. À partir de l'orbite de Jupiter, ça y est, le Soleil chauffe tellement la glace que la glace se sublime, ça fait une chevelure et finalement ça fait une queue. Là, la comète devient ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, c'est la queue de la comète. Au-delà de Jupiter, c'est un noyau inerte, tout petit, pas très lumineux, pas facile à suivre. Donc on essaye d'être le premier à redécouvrir le retour d'une comète pour redéfinir les nouveaux éléments orbitaux, prévoir quand est-ce qu'elle passera au plus près du Soleil, au plus près de la Terre, pour faire un fabuleux spectacle. Donc ça, c'est pour les comètes connues. Mais il y en a tout un tas qui sont absolument inconnus. On a un nuage de comètes, ça s'appelle le nuage de Oort. Donc c'est autour du Soleil, mais vraiment dans les frontières extérieures du système solaire. Hein. Ça va, on va dire, de 4 milliards de kilomètres au plus près. Donc là, on est à peu près au niveau de l'orbite, c'est après de l'orbite de Neptune, jusqu'à 15 000 milliards de kilomètres.
Quand même.
Voilà, tout ça, c'est un réservoir de comètes. On en a des milliers de milliards de noyaux de comètes inertes. Il suffit de les perturber un petit peu, et elles modifient leur orbite, et elles descendent vers le centre du système solaire.
Juste une parenthèse, vous avez déjà évoqué la question lors d'autres émissions. Quand vous dites que c'est un réservoir, ça ne veut pas dire que, comme dans les films de science-fiction, on est obligé de slalomer entre les comètes.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord.
Non, il y a de la place.
On peut circuler facilement,
même
sans problème.
Même pour la ceinture principale d'astéroïdes, on ne fait pas un slalom entre les astéroïdes pour les éviter. Ah. Au contraire, il faut être très fort en calcul pour pouvoir aller en survoler un.
Il y a que Bruce Willis dans ces films qui peut le faire.
C'est le seul. Mais bon, heureusement, il a les compétences pour.
Oui, bah oui.
Mais sinon, dans le système solaire réel, il n'y a pas besoin d'apprendre à slalomer avec un vaisseau spatial. Donc là, le noyau de comètes, le nuage de noyaux cométaires, le nuage de Oort est très loin. Ces comètes-là, qui sont décrochées, entre guillemets, on va dire, de leur orbite, pour la première fois, elles reviennent dans le système solaire interne. Et là, on va les voir apparaître pour la première fois. Évidemment qu'on ne peut pas prévenir, on ne peut pas prédire leur retour, puisque c'est la première fois qu'elles viennent. Et il y en a des milliards. Et donc, ces comètes-là, qui est-ce qui va les trouver en premier? Ceux qui observent le ciel, en gros, au hasard, parce que ça peut venir de n'importe quelle direction dans le ciel. Donc, on voit régulièrement apparaître des comètes. Là, on a parlé d'une comète particulière, la comète 12P, qui est passée dans le ciel. Elle n'a pas été, malheureusement, visible à l'œil nu. C'était limite. Mais on en a fait de magnifiques photos. Et là, en ce moment, elle est passée de l'autre côté du Soleil. Elle est dans l'hémisphère sud, donc on la voit plus de
l'hémisphère. Elle est passée quand, en termes de calendrier?
Elle est passée il n'y a pas très longtemps,
oui.
Parce que c'était il y a simplement quelques mois, au mois de décembre, janvier, février.
Donc décembre 2023, janvier
Absolument.
2024.
Elle est passée derrière le Soleil et maintenant c'est plutôt l'hémisphère sud qui peut la photographier parce qu'elle est de l'autre côté par rapport à nous. Et donc voilà, une comète comme ça, une comète magnifique, donc celle-là, elle était prévisible. Mais on en a d'autres, elles ne sont pas prévisibles, elles ont en plus des orbites qui sont extrêmement longues pour l'instant, on ne les reverra pas. Il y a beaucoup de comètes, leur période orbitale se compte en milliers d'années. On les voit une fois, Ce sont pourtant des comètes périodiques, mais là, c'est pire que la comète de Halley.
Non,
on ne la reverra pas deux fois.
Certains, je ne la reverrai pas deux fois.
Malheureusement, non. Alors, donc vous voyez que de ce côté-là, viser au hasard dans le ciel pour chercher des choses qu'on n'imagine pas, mais on essaye en tout cas de pouvoir les voir, des comètes, étudier des variables, des étoiles variables, trouver des supernovas, tout ça, c'est fortuit. Mmh. Les professionnels ne peuvent pas se le permettre. Il faut donner un projet précis pour avoir du temps d'observation d'instruments.
Et pourtant.
Mais ils ont trouvé la parade.
Ben oui.
Et ben comme nous, ils vont faire des télescopes qui observent toutes les nuits au hasard avec mes télescopes automatiques. On va pas quand même mettre un observateur, un technicien qui prépare l'observation s'il n'y a pas de but précis. Donc observer au hasard, les professionnels de plus en plus ont des télescopes automatiques. Donc on a tout un tas par exemple de comètes qui s'appellent Pan-STARRS, mais c'est simplement le sigle de ces télescopes automatiques qui observent le ciel aussi toutes les nuits. Alors là, on peut peut-être évidemment les découvertes, il y en a de moins en moins pour les amateurs dans ce cas-là, parce que les télescopes automatiques, là, ils font le ménage dans le ciel.
Oui, mais j'imagine que le temps d'utilisation de ces télescopes automatiques, il est calculé et partagé entre les professionnels.
Absolument.
Donc, ça, sur le fond, l'amateur a toujours un rôle à jouer.
Et alors, il a un nouveau rôle à jouer, en fait, c'est dans le nombre de données qui sont recueillies chaque nuit. Nous, les images que nous faisons chaque nuit, nous les dépouillons, on va dire, au fur et à mesure.
Ouais.
Là, ces images-là, ça gonfle, mais des mégas, des téraoctets de données qu'il va falloir un jour dépouiller. Et donc, il va falloir du temps aussi pour essayer de dépouiller toutes ces données-là. Et on va faire des découvertes longtemps après. C'est comme ça, par exemple, que même parmi les données des missions Apollo jusqu'en 1972, on fait encore des découvertes sur des tremblements sur la Lune.
Voilà.
Parce qu'on n'a pas fini de tout dépouiller.
Bah, ce sont des thèmes fil rouge, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Eh ben voilà, on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. On va faire une pause et puis on se retrouve dans quelques minutes. Lionel, nous sommes donc dans le cadre de cette émission Les découvertes des astronomes amateurs. Vous nous avez dit il y a de cela quelques minutes qu'effectivement les amateurs allaient être confrontés, mais dans le bon sens du terme, à une concurrence, celle des télescopes professionnels automatiques. Malgré ça, on va continuer à voir ce qu'on peut observer en tant qu'amateur. Et vous allez nous parler justement maintenant des nébuleuses. Les nébuleuses, c'est quoi?
Alors, nébuleuses, c'est tout ce qui est nuages de gaz, de poussière dans le ciel. Alors, des nébuleuses, on va dire, il y a deux grands types de nébuleuses. Il y a tout ce qui donne naissance aux étoiles. Alors là, on a des grandes régions d'hydrogène, donc des grandes nébuleuses. Certains endroits de la nébuleuse vont s'effondrer sur eux-mêmes pour se condenser de plus en plus et donner naissance à des étoiles. Donc il y a des étoiles qui naissent comme ça par paquets. Et d'autres nébuleuses vont naître à l'inverse de la fin de vie des étoiles. C'est-à-dire à la fin de leur vie, les étoiles vont expulser de la matière. Par rapport à toute l'étoile, elles n'expulsent pas grand-chose. Donc quand on parle même de supernova, il y a quand même pas grand-chose. L'étoile n'a pas complètement disparu. Alors certaines si, hein. Il y a des supernovas thermonucléaires où là l'étoile peut carrément disparaître.
Hein, si.
Bon, mais ça c'est beaucoup plus rare. Donc il y a plein de choses comme ça dans le ciel, gaz, des nuages moléculaires, il y a de la poussière. Donc tout ça, ça s'englobe sous le terme générique de nébuleuse. Ces nébuleuses-là, on ne les voit facilement que lorsqu'elles sont éclairées par une étoile. Bien évidemment, il faut quelque chose quand même pour exciter les molécules qui les composent, et en se désexcitant, ça émet de la lumière. Donc, quand vous regardez des photos d'amateurs ou des photos même de professionnels dans le ciel, vous voyez du rouge. Alors, le rouge, c'est l'hydrogène. Donc ça, c'est sûr qu'il y en a un peu partout. La plupart des nébuleuses sont rouges. Et puis, parfois, il y a du bleu. Alors, le bleu, c'est souvent la poussière qui réfléchit la lumière des étoiles massives, bleues, chaudes, qui sont nées les premières. Et elles éclairent l'intérieur de la nébuleuse. Donc on a des nébuleuses par réflexion. On appelle ça comme ça. Alors que le rayonnement émis par toutes ces étoiles massives-là va exciter l'hydrogène. Et là, on a une nébuleuse par émission. C'est-à-dire l'hydrogène, en se désexcitant, ça émet de la lumière rouge. Donc on a des belles couleurs dans le ciel comme ça. On appelle ça des nébuleuses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la nébuleuse, il y a la partie, on va dire, facilement visible, qu'on peut obtenir avec des temps de pause relativement petits. Et là, même les professionnels, les temps de pause, on va dire, c'est dans leur domaine. Et il y a la partie externe qui est très, très, très faiblement éclairée. Soit parce qu'elle est complètement diluée, parce que trop loin, soit parce que le rayonnement de l'étoile a du mal à arriver jusque-là. Et donc, il y a une partie de toutes les nébuleuses qui n'est pas encore connue, finalement. C'est toutes les parties les plus faiblement éclairées. Et là...
Celles qui sont en train de mourir.
Alors, soit celles qui sont en train de mourir
vraiment,
dans
enfin,
la
en fin
de vie, d'une
quoi.
Étoile.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire,
ouais.
c'est de la matière qui a éjecté avant que l'étoile n'arrive en fin de vie. Donc, c'est la première matière éjectée qui est déjà arrivée assez loin.
Ouais.
Lorsque l'étoile finit en feu d'artifice, là, c'est la partie la plus dense, la plus concentrée. C'est là, c'est la partie éclairée qui est facilement visible. Mais la matière éjectée bien avant cette phase-là, effectivement, c'est plus difficile à voir. Et donc, pour les voir, ces parties-là, il faut faire des temps de pause beaucoup plus longs. Là encore, les professionnels, ils peuvent pas non plus demander des temps d'observation infiniment longs, parce que il y en a d'autres qui attendent derrière, donc il y a la file d'attente, et donc dans les projets des professionnels, on va pas faire 50 heures de pause, 100 heures de pause, alors que et les amateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on peut cumuler des temps de pause, et en cumulant des temps de pause, on fait finalement maintenant des découvertes. Et des découvertes même sur des objets qui ont été photographiés des millions de fois. C'est-à-dire qu'on a par exemple une belle galaxie dans la constellation d'Andromède, M31. On l'appelle la galaxie d'Andromède. Tout le monde l'a photographiée celle-là. Ben, figurez-vous que l'année dernière, on a fait une découverte.
Donc en 2023.
Parce qu'il y en a un, il s'appelle, alors je vais... Breyfault. Il a fait
à vos souhaits.
180 heures de pause sur cette galaxie-là. Jamais personne n'était allé jusque-là. Hein. Et donc... en général, simplement en quelques minutes de pause, allez, en quelques heures de pause, on a une magnifique galaxie d'Andromède sur les photos. Mais vraiment magnifique. En 180 heures de pause, alors là, oui, là, on fait des choses magnifiques comme découvertes. Et donc, il a découvert quelque chose. Il a découvert un arc bleuté parce qu'il fallait observer, faire l'observation dans le filtre oxygène. C'est-à-dire qu'avec ce filtre-là particulier, on appelle ça de l'oxygène 3, donc c'est de l'oxygène qui est doublement ionisé, un filtre particulier qui sélectionne une longueur d'onde très particulière, et en faisant des pauses, alors beaucoup de pauses parce que c'est pas très lumineux, il a mis en évidence au-dessus de la galaxie d'Andromède un arc, un nuage d'oxygène. Mais il a fallu faire de la pause. Alors, il a fait cette découverte-là avec une lunette de 10 cm. Et avec 187 heures de pause cumulées, et rien que 108 heures avec le filtre oxygène. Il a fallu ça, parce que en moins, on ne voit pas le nuage. Mmh. Donc 108 heures de pause cumulée rien qu'avec le filtre oxygène. Et il a fait cette découverte-là. Il y en a d'autres qui se sont dit, allez, moi j'avais dit, à ce moment-là, j'avais dit au club, bon, alors les copains, là, faut faire minimum 200 heures de pause. Si vous voulez voir des choses, faut passer à 200. Bon, finalement, il y en a qui ont dû avoir la même idée que moi. Et par exemple, dans la constellation de Cassiopée, il y en a un qui a fait 258 heures de pause. Il a découvert des restes d'une ancienne supernova. Mais une supernova qui a explosé il y a longtemps. Mais la matière est tellement diluée qu'il faut faire au moins ça comme pause pour la mettre en évidence. Eh ben, il l'a trouvé. Donc, des restes d'une très ancienne supernova qui a explosé il y a longtemps. On vient de découvrir ça. Mais avec 258 heures de pause. Bon, là, il y en a qui se sont dit, bon, on va faire encore mieux. Reste d'une supernova dans la constellation d'Orion. 327 heures de pause. Et rien qu'en oxygène 3, 130 heures de pause. Mais là, ils se sont mis à 6 quand même. Donc là, ils commencent à mutualiser les observations.
Ouais, voilà,
parce
ça.
Que quand on arrive à un total de plus de 300 heures de pause, vous imaginez, on imagine des nuits de 10 heures de pause. Mmh. Ça déjà, ça arrive rarement parce que il faut que l'objet soit bien placé déjà au lever, qu'il passe toute la nuit dans le ciel et jusqu'au lever du soleil.
C'est-à-dire qu'il se relaie en fait. Là.
Et donc là, c'est c'est en même temps.
En même temps.
En même temps. C'est-à-dire les mêmes nuits, chacun dans son coin fait exactement les photos de la même cible, et après on va traiter les images, mais en cumulant toutes les poses de tout le monde. Mmh. Parce que un seul observateur, pour faire plus de 300 poses, si par exemple on pouvait faire 10 heures par nuit, il faut déjà 30 nuits claires.
Ouais.
30 nuits claires, c'est pas gagné en ce moment.
Puis ça va
se faire sur plusieurs années.
Puis la vie de famille, la vie de couple en prend un coup. Hein.
Alors, ce genre d'instruments-là, on les a aussi automatisés.
Ah,
ils
voilà.
se débrouillent tout seuls dans le jardin.
D'accord.
On les lance et ils suivent. Hein. On n'est pas derrière à l'oculaire.
Ah, vous voyez, tout de suite.
Il y a une caméra déjà, donc il n'y a rien à voir, à part sur l'écran. Mmh. Et finalement, c'est très très bien automatisé. Ouais, ça se débrouille tout seul.
J'étais là à me dire, les pauvres, ils y passent des heures, mais c'est plus vraiment ça.
Même pas vraiment.
Même pas vraiment.
Eh bien, on a encore battu le record. Revenons à notre galaxie M31. Je vous ai dit que Breyfault, avec sa petite lunette de 10 cm, il avait mis en évidence un arc d'oxygène au-dessus de la galaxie. On ne sait pas trop d'où ça vient. Est-ce que c'est une onde de choc de la matière qui a été expulsée par la galaxie d'Andromède? Est-ce que c'est autre chose? On n'en a pas encore la nature. Hein. Là, maintenant, on va étudier et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, faire des simulations pour expliquer ce qu'on observe. Mais en tout cas, on a l'observation, là, c'est fait. Et il y en a qui se sont dit, on va faire mieux. C'est vrai qu'on est arrivé dans les 300 heures de pause. Bon, bah là, on a passé les 1000. Donc sur cette galaxie M31, ouais. 1056 heures de pause, il y a 23 observateurs. Donc là, ils ont cumulé, donc ils se sont mis à 23, ils ont cumulé toutes leurs observations. Alors rien que pour l'oxygène, cette fois-ci, 488 heures de pause en oxygène. Ah oui, l'arc, il faut surtout de l'oxygène pour le voir, n'hésitons pas. Pour l'hydrogène, alors là, c'est une longueur d'onde particulière, on appelle ça le H-alpha, 314 heures de pause en H-alpha, 488 heures de pause en oxygène. Et évidemment, on fait des pauses dans le rouge, dans le vert, dans le bleu, pour donner un peu des couleurs naturelles à la galaxie. On cumule tout ça, et là, on voit des détails dans ce fameux nuage d'oxygène, cet arc d'oxygène. Et donc, on voit des choses encore plus faibles. Bah oui, avec 1056 heures de pause. 1056 heures de pause, vous imaginez. Donc, ce sont des instruments même qui sont dans différents pays, c'est pas le problème. Hein. La cible, elle est visible pour tout le monde hein, sur Terre. Et donc, on peut cumuler des choses... Eh bien, qui ont été prises avec des instruments différents. Alors, il faut quand même que le champ couvert par les observateurs soit le même. Faut pas qu'il y en ait un qui fasse un zoom sur la galaxie et les autres ont un champ très 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 grand autour de la galaxie.
Faut s'accorder.
Faut quand même faire à peu près la même chose. Mais si les champs des observateurs sont à peu près similaires, alors on peut arriver facilement à recombiner tout ça, à ne garder que ce qui est commun. Parce que quand même, les instruments sont différents, les caméras sont différentes, les champs sont toujours un petit peu différents les uns des autres. Mais on va garder la partie commune. Et la partie commune, 1056 heures de pause cumulée. Donc voilà ce que les amateurs peuvent faire. Et là, même les professionnels, ils vont avoir du mal à demander un temps d'observation de plus de 1000 heures sur un objet. Alors, ils ont quand même de la chance, c'est qu'ils ont des instruments bien plus gros que les nôtres qui captent beaucoup plus de lumière. Donc, ils réaliseraient quand même, avec beaucoup moins de temps, ce que nous, on ne peut faire qu'à plus de 1000 heures de pause cumulées. Oui. Alors, par exemple, dans un de leurs futurs... observatoire. Donc un instrument qui est en cours de construction, qui verra sa première lumière en fin d'année 2025, on devrait commencer à voir des choses fantastiques. Il mettra, par exemple, 15 secondes pour voir des choses 20 fois plus faibles que ce que nous on obtient en plusieurs heures de pause.
C'est une sacrée caméra.
La caméra est monstrueuse.
Oui.
C'est gros comme une voiture.
Ça fait plus d'une tonne, c'est ça?
C'est ça, se compte dans les tonnes. Mmh. Le nombre de pixels, c'est faramineux. Pour une image faite par cette caméra, il faudrait avoir un mur d'écran haute définition, mais c'est 10 écrans. Donc un mur de 10 par 10, voilà, pour étaler l'image obtenue par cette caméra-là. Donc vous imaginez le nombre de pixels. Les données se comptent en pétaoctets, donc c'est des millions de gigaoctets. Mmh. Donc c'est monstrueux. Là encore, il faudra du temps de dépouillement. Hein. Mais il y a que comme ça, ils vont réussir à bah, finalement à concurrencer ce que les amateurs réussissent à faire. Alors nous, on trouve des astuces. Hein. Pour des objets ultra faibles, il faut cumuler des temps de pause. Mais on est plusieurs sur Terre, ça va. On peut cumuler nos images et on arrive à faire des découvertes. On surveille le ciel tous azimuts. On voit des choses arriver. Alors après, on est, comme je dis, on est des lanceurs d'alerte. Donc il y a tout un tas.
Et puis la technique évolue aussi pour vous. Peut-être mais, plus lentement, mais
absolument.
Mais elle évolue.
Non, la technique évolue. Alors là où il y a quand même le petit challenge, hein, il y a le Graal de tout astronome amateur, c'est d'y laisser son nom. C'est-à-dire que dans ces découvertes-là, il y a par exemple des petites nébuleuses qu'on appelle des nébuleuses planétaires. C'est la fin de vie d'étoiles comme le Soleil. La matière a été éjectée et ça fait mais quelque chose de pas très grand dans le ciel. Il y en a qui se sont spécialisés dans la détection de nébuleuses planétaires. Et par exemple, je vais citer Nicolas Wouters. Donc c'est un astronome français, un breton, qui a déjà laissé 3 fois son nom aux nébuleuses planétaires. La technique après pour dénommer les nébuleuses planétaires, c'est donner les 2 premières lettres du nom, puis on met un numéro. Donc là, il y a OU1, comme Wouter 1, Wouter 2, Wouter 3. La première dans la constellation de Persée, deuxième constellation de Cassiopée, et troisième dans la constellation du Petit Renard. Qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour réussir ces découvertes-là? Eh ben, pareil, il fait pas mal de pauses aussi. Des pauses de 30 minutes individuelles. Alors, pour, par exemple, Wouter 3, 23 pauses de 30 minutes avec un filtre de soufre, plus 22 pauses de 30 minutes avec de l'hydrogène et 27 pauses de 30 minutes avec de l'oxygène. Et il a découvert un petit anneau qui est le reste de la fin de vie d'une étoile comme le Soleil dans la constellation du Petit Renard. Donc, certains amateurs, quand même, sont devenus célèbres. Et beaucoup laissent, par exemple, leur nom aux nouvelles comètes qui réapparaissent aussi.
D'accord. Donc, si prochainement on voit dans les catalogues LI-531,
Ce sera BO alors.
Ou BO.
BO.
Ça sera Lionel Bourris 531.
C'est ça. À 531, non, faudra quand même commencer par la numéro 1. Ma première découverte. BO1.
Oui, BO1.
Dans 531, c'est short tard déjà.
C'est de l'humour pour nos auditeurs qui le sachent.
Absolument là. Mais
on se taquine, on se chicane.
Vous voyez quand même que les astronomes amateurs contribuent toujours à la découverte de plein de choses dans le ciel qui n'est finalement très très loin d'être immuable.
Très bien Lionel, merci pour cette émission encore une fois passionnante. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro de En route vers les étoiles.